calabouche!
Un anneau à l'oreille, une jambe en bois et un perroquet sur l'épaule, il n'en faut pas plus pour identifier immédiatement les attributs d'un pirate. Une image créée, soit dit en passant, dans la littérature du 19e siècle, et notamment dans le fameux roman de Stevenson, L'île au trésor. Loin de ces représentations, la piraterie est pourtant un sujet d'étude très sérieux pour les historiens, car il a été et continue d'être un véritable phénomène à travers les siècles. Avec vous, Pierre Prétoux, nous allons retracer cette histoire. Bonjour à vous.
Bonjour, Véronique Alzieu.
Vous êtes avec nous en direct des locaux de nos confrères de RCF à La Rochelle. Pierre Prétoux, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge donc à La Rochelle Université, spécialiste de l'histoire de la justice dans les espaces atlantiques. Et vous publiez aux presses universitaires de France un livre intitulé « L'invention de la piraterie en France au Moyen-Âge ». J'aimerais tout d'abord que vous nous expliquiez pourquoi vous consacrez un ouvrage à ce phénomène de la piraterie dans une période si précise et une zone géographique qui l'est aussi, alors que manifestement la piraterie est connue dès l'Antiquité.
Alors précisément parce que du point de vue de notre historiographie, la piraterie n'est pas si bien connue que ça, du point de vue historique en tout cas. Et elle souffre encore d'un angle mort de l'histoire qui est précisément le Moyen-Âge. Et très souvent, on interroge la piraterie à travers l'histoire à partir de ce que l'on en sait, des stéréotypes caribéens de la flibuste, des boucaniers du XVIIe et XVIIIe siècle qui ont été en fort écho dans la littérature du XIXe siècle que vous signalez. Et c'est vrai qu'on ne savait pas grand-chose des conditions réelles de l'exercice historique de la piraterie entre les siècles du Grand Moyen-Âge, que l'on a pour réputation d'imaginer plutôt agraires et ruraux, alors qu'en fait, ils ont aussi une part d'histoire maritime qui a été un peu éludée par l'historiographie ces dernières décennies.
De toute façon, à partir du moment où il y a une activité maritime de la part des hommes, il y a forcément une activité de piraterie qui y apparaît ?
Alors, il y a deux problèmes historiques. Il y a celui de la violence effective, licite ou illicite, et celle du discours de la violence, en réalité. Et c'est bien cet objet-là qui m'intéressait du point de vue historique. Pourquoi est-ce qu'en Occident, dans la culture occidentale, il a fallu qu'on trouve un mot particulier pour qualifier les agressions qui existent matériellement en droit, hein, vol, blessure, coup, violence, meurtre, assassinat, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça existe en droit pénal. Pourquoi est-ce que lorsque l'on l'observe en mer, fallait-il pour cela inventer un nouveau mot? Et c'est précisément le Moyen-Âge qui est venu l'apporter.
Et vous avez trouvé une réponse donc à cette question ?
Voilà, c'est que le mot piraterie en fait a été inventé par l'Antiquité en réalité. C'est un mot grec au point d'origine qui est très largement repris par l'Empire romain ensuite et qui forme une codification pénale à l'époque antique, mais qui dans les premiers siècles du Moyen-Âge s'était totalement évanoui. Le mot piraterie a disparu des écrits au moins jusqu'au XIIIe siècle. On n'en faisait plus l'usage et puis soudainement, dans les archives, à la fois littéraires et juridiques, à partir du XIIIe siècle, tout d'un coup, ce mot est déterré par les savants des XIIIe, XIVe, XVe siècles, et ils tentent de l'utiliser pour qualifier ce qu'ils pensent être des situations nouvelles et dont ils pensent que le lexique antique est utile à les qualifier.
Quand on l'utilise dans l'Antiquité, ce mot de pirate ou de piraterie, il signifie la même chose ?
Pas tout à fait, parce que, en fait, le mot piraterie, il émerge fortement en latin, autour du premier siècle avant et après notre ère, dans un contexte que vous connaissez sans doute, hein, du temps où les Romains commencent à établir un impérium autour de la Méditerranée. Et à partir du moment où toute la Méditerranée est tenue sur ses rivages par l'Empire romain, cet empire considère la mer Méditerranée comme Mare Nostrum, notre mer, c'est la leur, et toute forme d'activité illicite qui s'y passe mérite pour eux une qualification sublime, suprême, un crime qui est fait non pas aux usagers de la mer, mais à l'État romain lui-même, qui pense que sa mer est consubstantielle de sa vie politique. Pour le Moyen-Âge, la chose est très différente parce qu'il n'y a pas d'empire romain, d'où la surprise de l'historien qui voit réapparaître le terme. Pourquoi est-ce que dans un monde qui était fragmenté de royaumes et de royautés en Occident, a-t-on été chercher ce mot piraterie qui venait des anciens Romains, qu'on retrouve bien sûr dans la littérature cicéronienne, essentiellement l'ennemi de tous les Romains? Comment a-t-on pu se l'appliquer, par exemple, dans le cadre de la guerre franco-anglaise, de la guerre de Cent Ans, des affrontements entre royautés, qui ont soudainement trouvé intérêt à utiliser ce terme.
Qu'est-ce que vous entendez, Pierre Prétou, par crime sublime ?
Alors, les crimes sublimes ou énormes, si on reprend l'expression de l'époque pour les 15e, 16e siècle, sont des crimes qui ne sont pas faits seulement à l'homme, mais à Dieu aussi. C'est-à-dire qu'ils sont ultimes. Et ceux qui les commettent, on a droit envers eux de les délier leur âme. Normalement, une justice terrestre ne peut anticiper la justice céleste, sauf quand le crime est fait à Dieu. Donc c'est des crimes absolument exceptionnels, et il n'y a pas une victime, il y a un cortège infini de victimes, l'ensemble de la nation, si vous voulez.
Qu'est-ce qui fait que la piraterie apparaît ? Cette infraction, elle apparaît quand même parce qu'il y a une activité économique qui se développe sur mer et qu'il y a une fréquence des navires qui vont d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre et qui transportent des biens de valeur.
Voilà, il y a un double contexte en fait, qui est l'éveil atlantique et méditerranéen du grand commerce et de la fin du Moyen-Âge, des 13e, 14e, 15e siècle, un grand éveil commercial qui fait qu'on pratique et on fréquente les mers de plus en plus assidûment. Et en même temps, la naissance d'un pouvoir politique qui a fait émerger cette notion de chose publique, qui fait qu'il veille à ce qui se passe au-delà de ses rivages, parce que soudainement, ça lui paraît être une préoccupation historique majeure que d'en réguler les pratiques.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Il faut faire une distinction dans le vocabulaire entre des mots que vous avez déjà, pour certains d'entre eux, prononcés. Vous avez parlé de boucanier, de flibustier, on n'a pas encore parlé de corsaire. D'ailleurs, c'est peut-être la principale distinction à préciser. Qu'est-ce qui différencie un corsaire d'un pirate ?
Alors, c'est de savoir si la violence qui est exercée en mer est licite ou ne l'est pas. Et à une époque, de hautes époques dans lesquelles il n'y a pas de marine nationale constituée ou de marine royale, ce sont les armements privés qui se livrent à la violence. Soit ils le font de manière tout à fait légale, les armes, là, on a une lettre de marque, ça c'est une top moderne.
Une lettre de course.
Et à ce moment-là, ils sont des, voilà, ça. Des courses, et donc, oui, et là, ils sont des corsaires, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation légale de mener la guerre au nom du roi. Et il y a ceux qui n'ont pas cette autorisation légale, et qui tombe donc juridiquement du côté de la piraterie. Pour des faits qui peuvent être similaires, mais certains sont licites et d'autres ne le sont pas. Ça, c'est la lecture de l'époque moderne, à un moment donné où le système est parfaitement constitué. Ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge.
Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui, au Moyen-Âge, différencie tout cet univers de celui qu'on va pouvoir observer à l'époque moderne ?
Eh bien, tout simplement parce que le système juridique qui l'encadre n'a pas encore produit des vérités aussi tranchées. Et qu'il a fallu du temps pour y arriver et établir une doctrine. Et c'est précisément en reprenant la logique de la piraterie telle que la voyait Cicéron qu'ils ont élaboré une sorte d'accusation en piraterie, qu'ils ont fait émerger avant la course d'ailleurs. La piraterie s'est constituée en droit à partir du XIVe siècle, on va dire, elle est véritablement constituée en droit comme une accusation pénale uniquement à l'extrême fin du XVe siècle en France. Hein. Et la course en dérive... Je dirais en reflet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des activités illégales, on en déduit l'existence d'activités légales de l'autre côté, sous réserve que le roi les ait autorisées. Dans un premier temps, les rois de France, par exemple, ont autorisé des représailles licites, on appelle ça des lettres de représailles, le droit de se faire vengeance sur vos ennemis, le droit de se défendre soi-même, parce qu'en mer, le roi ne bénéficie pas d'une flotte royale pour imposer sa peine et navire. Donc il s'en remet aux victimes, parfois, qui l'autorisent à livrer la violence. Et là, c'est parfaitement licite. Donc ces gens-là se mettent à la course sur mer. On les appellera plus tard, mais véritablement à partir du XVIe siècle, des corsaires.
Ces mots de boucanier et de flibustier sont aussi des termes qu'on voit apparaître plutôt à partir des XVIIe et XVIIIe siècles.
C'est exactement ça. Là, c'est plutôt dans l'univers des Antilles et de la Caraïbe. Tous les stéréotypes d'ailleurs historiques de la piraterie sont nés dans cette zone-là, qui était sous concurrence de souveraineté entre les différents royaumes qui s'agitaient autour. Et il y a des gens qui effectivement ont profité de cette rivalité des royaumes pour se soustraire de chacun d'entre eux, si vous voulez, et de n'obéir à personne, et essayer de naviguer à la fois dans des eaux discrètes et des eaux politiques un peu troubles. Hein. C'est l'histoire de la flibuste qui parfois agit de manière tout à fait licite,
Flibustier, ça vient du néerlandais ?
Oui, il y a une désinence néerlandaise, effectivement. Et le mot flibustier désigne celui qui butine librement. Donc il fait butin, donc on s'attend à un droit de la guerre, le droit de butiner, de prendre des butins. Sauf que comme il le fait librement, il le fait en dehors de tout contexte légal. Et c'est pour ça que les agissements de la flibuste sont pénibles, parce qu'il peine à être qualifié en droit. Et puis une action un jour va être légale, mais une autre le lendemain ne l'est pas, et ainsi de suite. Et eux vivent dans ces eaux-là.
Et un boucanier ? Les boucaniers sont des sortes de pirates ?
Alors les boucaniers, c'est différent. Les boucaniers, d'ailleurs, sont liés à la flibuste. Hein. Les boucaniers sont des gens qui vivaient sur les îlots des Antilles et qui, pour subvenir à leurs besoins, étaient des coureurs de bois, quoi, des îles, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la chasse hein, et de la pêche. Et ensuite, fumaient les bêtes et les poissons sur des clés en bois que, dans les langues amérindiennes, on appelle des boucans. Donc on les appelait des boucaniers. Et ils ont servi, parfois, effectivement, même s'ils ont une existence assez terrestre, à augmenter les équipages de la flibuste.
Pourquoi dit-on, Pierre Prétoux, que l'âge d'or de la piraterie, c'est plutôt le XVIIe siècle ?
Ah, parce qu'on a l'impression, avec les flibustiers et les boucaniers, que tout d'un coup, une zone de non-droit s'était créée dans les Antilles, et qu'une existence extraordinaire, libre, de toute contrainte, de toute suggestion, de toute royauté, leur permettait de vivre comme bon leur semblait. Sauf que nous, historiens, quand on étudie leurs existences, elles nous paraissent assez pauvres et maigres. Ils ont, ces braves gens, survécu comme ils le pouvaient, en réalité, de peu de choses.
Libérez la gouverne ! À bâbord tout et virez sur tribord !
Libérez la gouverne !
Pierre Prétoux, nous poursuivons avec vous l'évocation donc de l'histoire de la piraterie. Je rappelle que vous publiez aux éditions des Presses universitaires de France l'invention de la piraterie en France au Moyen-Âge. Vous nous avez expliqué qu'à ce moment-là, une autre manière d'envisager cet exercice illicite sur les mers et les océans apparaît. Est-ce que c'est aussi en lien, Pierre Prétoux, avec la découverte du Nouveau Monde à la fin du XVe siècle ? Est-ce que là, il y a vraiment une bascule qui s'opère dans ce qu'on pourrait appeler le brigandage sur les flots ?
Ah oui, très certainement, parce que tout change à partir effectivement du XVIe siècle. L'Europe connaît son expansion atlantique, hein, et tout change des deux points de vue, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation considérable des trafics, qui s'expose d'ailleurs très largement dans des navigations que l'on qualifie de hauturières, hein, au long cours. Ça, c'est pour les faits de navigation qui sont en augmentation constante, et donc qui nécessairement font augmenter les cas de violence qui peuvent les pirater. Et d'un autre côté, on a des faiblesses juridiques des pouvoirs politiques qui, tentant de gouverner à distance et à travers des grandes circulations océaniques, ont le plus grand mal à faire appliquer leur doctrine pénale sur les mers.
Alors justement, de qui relèvent les zones géographiques maritimes ?
Au Moyen-Âge, justement, c'est un impensé. C'est quelque chose qui n'a pas été pensé, parce que les pouvoirs politiques considèrent la mer, ou en tout cas le rivage, comme une ligne au-delà de laquelle leur souveraineté n'a pas de place. Parce que la mer n'est pas, ni du point de vue politique, ni du point de vue religieux, un endroit où on conduit les hommes.
Un endroit qu'on a du mal à se représenter ?
Absolument. Alors, c'est vrai qu'à partir du XVIe siècle, on a des juristes qui commencent à avoir des élaborations, mer ouverte, mer fermée, mais ça n'avait jamais été pensé avant. Donc, il a fallu construire toute une doctrine pour essayer d'encadrer ces choses-là. Et très vite, ce qui a émergé, c'est l'idée selon laquelle des infractions commises en mer sont plus qu'une infraction. C'est une infraction parce qu'elles ont des victimes, mais aussi c'est une infraction contre la chose publique et contre tout l'État, hein, contre la res publica qui est incarnée par les rois, qui, voulant impliquer et faire appliquer la paix des navires qu'ils ont signée avec différentes nations, sont obligés d'assortir ces délits commis en mer de peines absolument extraordinaires.
C'est pour ça que vous parliez de violences supérieures à toutes les autres ?
Oui, c'est sublimé, c'est-à-dire que dans leur esprit, ils ont offensé les rois. Et donc, s'ils ont offensé les rois, ils ont offensé la majesté qui va avec, et donc la grâce de Dieu qui la justifie. Donc, ce sont des crimes faits à Dieu lui-même.
Et donc, les peines sont beaucoup plus sévères que pour les mêmes types de délits sur Terre ?
Alors, c'est ça qui se met en place justement au XIVe et XVe siècle au Moyen-Âge. C'est qu'à force de le penser, on le durcit considérablement. Là où ça apparaîtra, c'est au milieu du XVIe siècle, en France par exemple, lorsqu'on déplora le supplice de la roue, la torture, les supplices exceptionnels pour les pirates, hein, que les choses seront très claires, mais ça a été élaboré en fait lentement par une sorte de mécanique culturelle et pénale qui a accablé particulièrement les gens qui menaient des violences en mer à partir du XIIIe siècle. Et si vous voulez, vous avez une sorte de précipité culturelle et juridique qui s'est mise en place progressivement, qui se déploie en même temps que l'expansion océanique des Européens et qui a créé cette figure mentale de la piraterie sur laquelle on va abattre toutes les violences judiciaires légales possibles.
Alors justement, ces zones géographiques, elles se répartissent comment ?
Alors dans un premier temps, ce qui a fait sens, le vrai problème historique est né dans l'Atlantique en réalité, et particulièrement dans le contexte du conflit franco-anglais. À partir du moment, et alors ça commence vraiment en 1204, lorsque le roi de France décide de déclarer la commise de la Normandie, enfin je ne vais pas revenir dans les détails si vous voulez, mais alors que la Manche était une mer normande, une sorte de Méditerranée commune, à un pouvoir qui était sur les deux rives, brutalement on se retrouve avec une ligne politique entre France et Angleterre, en parfaite concurrence et rivalité. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se durcir et que les premiers récits pirates se faufilent dans nos récits d'histoire maritime.
Parce qu'avant, il y avait quand même les immenses puissances maritimes qu'étaient le Portugal et l'Espagne. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de véritable piraterie ?
Ah si, de la violence, il y en a. Mais selon les périodes de l'histoire où on se place, tout l'intérêt de l'historienne, c'est de savoir comment elles sont qualifiées, en fait. Voyez ? Par exemple, pour le Moyen-Âge, il est très clair qu'une grande tradition est méditerranéenne dans la perception qu'on a de la violence et de la mer. Et dans cette perception méditerranéenne, les combats que vous menez en Méditerranée, vous le faites contre les Sarrasins, si vous voulez. C'est le pèlerinage vers Jérusalem, pèlerinage armé parfois, certes, mais les Sarrasins ne sont jamais des pirates. Les Sarrasins sont des infidèles du point de vue mental. Donc ils n'auraient pas appliqué une sorte de pénalité extraordinaire pour des gens qui sont sans aveu et sans loyauté et sans sujétion. C'est pour ça que la piraterie est née véritablement d'un contexte politique et intellectuel qui est lié à l'Atlantique et à l'expansion des royautés du Portugal, effectivement, de Castille, de France, d'Angleterre et des Pays-Bas.
Je vous ai convoqué à la demande de Sa Majesté qui a besoin de vos services.
Je suis dévoué à mon souverain corps et âme.
Désormais, ta vie sera celle d'un pirate. Tu auras ta part du butin.
Nos géographes ont établi les cartes des voies maritimes qui relient l'île de la Barbade aux mers du Sud. Malheureusement, ces routes commerciales sont impraticables pour les navires marchands qui ne sont pas armés d'une batterie de canons.
Les pirates ?
Sa Majesté veut que ces vaisseaux y naviguent à nouveau en sécurité.
Ouvrez les sabords ! On se prépare pour la bataille !
Ventre Dieu des pirates !
La suite de l'histoire.
Malgré tout, est-ce que d'autres mers ou océans sont concernés par la piraterie ?
La Baltique, et pour les mêmes raisons. En Baltique, on voit apparaître des prototypes de piraterie assez nettement à partir du XIVe siècle, pour les mêmes raisons de fragmentation. À partir du moment où des royautés commencent à émerger dans ce secteur, eh bien, ces royautés mettent en place une nouvelle lecture des encadrements qu'il convient d'appliquer aux gens qui prennent la mer.
On parle souvent de l'archipel espagnol, donc des Canaries, qui constitue une sorte de carrefour maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Est-ce que c'est une zone privilégiée par les pirates ?
Les pirates, ils privilégient une tactique que nos contemporains n'imaginent pas. En mer, la violence, c'est avant tout une stratégie d'embuscade. C'est-à-dire qu'on s'embusque en mer comme je ferais dans une forêt, mais sauf que lorsque vous êtes en mer et que vous constatez la présence d'un pirate, on va l'appeler comme ça, eh bien, c'est trop tard pour vous. C'est-à-dire qu'il a planifié le fait que vous passeriez dans son secteur, que lui aurait le bon sens du vent, qu'il irait plus vite que vous. Et ça peut prendre quelques heures, mais vous considérez très très vite que vous êtes perdu parce que le guet-apens est là et que vous ne pouvez plus échapper à votre prédateur. Alors, il faut éviter de se mettre à porter des flottes dangereuses. Donc, vous n'allez pas vous mettre à la sortie du golfe de Cadix parce que là, ça paraît un peu dangereux. Encore qu'il y en a qui le font, parce qu'ils sont très habiles à repartir avec le marnage, surtout dans l'Atlantique où il est très important. Et donc un bon agresseur, c'est quelqu'un qui sait se présenter au bon moment, à la bonne heure de la journée, et profiter du jusant, c'est-à-dire du retrait des eaux, pour repartir encore plus vite.
Mais alors quand on est en haute mer, on prévoit le passage d'un bateau, ou c'est au pied bonheur la chance, et le premier qui passe, on l'attaque ?
C'est un peu tout ça, c'est-à-dire que vous êtes un expert en mer, vous connaissez le vent, vous savez vous placer et puis vous savez utiliser les techniques pour rattraper un navire et aller plus vite que lui. Alors là, vous pouvez avoir deux tactiques, vous pouvez le faire à la voile, effectivement, dans l'Atlantique, ou sur les côtes de l'Europe, utiliser les bancs de rames, hein, parce que les galères, elles fonctionnent encore au XVIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle, et même parfois au-delà. Et là, c'est à la force des bancs de rameurs et à leur nombre que vous allez l'emporter sur votre adversaire.
Comment est-ce que les pirates savent qu'un bateau vaut la peine de s'attaquer à lui ou pas ?
La rumeur. la circulation de l'information. En fait, la circulation de l'information est très dense hein, dans ces époques entre les différents ports. Par exemple, pour le cas que vous citez, ce qui est intéressant d'attraper pour le XVIe siècle, c'est le fameux galion de Manille, celui qui revient chargé d'or du Nouveau Monde. Hein. Celui-là, beaucoup ont tenté de les prendre. Mais vous savez, tout fait profit en fait en mer. Hein. Vous attrapez un navire, si vous ne l'avez pas coulé, il a une valeur. Et puis vous pouvez capturer les gens. Parce que
prise d'otage.
Pour les récupérer, et voilà, pour les récupérer, il faudra payer une rançon. Et ça, c'est un détournement du droit de la guerre, de l'honneur de la guerre, qui est particulièrement inacceptable du point de vue des rois. Mais c'est ainsi que ça marche et que ça fonctionne. Même des gens modestes peuvent valoir quelque chose.
Hein. Quand même, le butin le plus convoité, qu'est-ce que c'est? C'est l'or?
Oui, les fabuleux métaux qui reviennent, on le sait par les gazettes et par le bouche à oreille, qui font rêver les gens. Hein. Mais sinon, le simple fait de prendre des hommes en mer, hein, ça a une valeur qu'il ne faut pas négliger. Hein. Tout fait profit en réalité. Il n'y a guère que les pirates qui ne font pas profit lorsqu'ils sont poursuivis par les rois. Parce que lorsqu'on les attrape, ils n'ont quasiment aucune valeur. Hein. Ils ont coûté beaucoup et ils ne rapportent rien. D'ailleurs, pour bien le signifier, par exemple, le roi d'Écosse, hein, à la fin du Moyen-Âge, était ravi quand son amiral, Andrew Barton, lui renvoyait les têtes de pirates encaquées dans des tonneaux de harangues en sort. Ça avait coûté très cher, mais il en était très satisfait, si vous voulez. Donc c'est assez asymétrique. Autant les pirates font des profits de tout, autant les rois qui les poursuivent, eux, n'y gagnent strictement rien.
Les pirates naviguent un peu sur toutes sortes de mers. Ils attaquent leur proie en s'approchant au maximum. Ou bien ils sont équipés de canons?
La présence de l'artillerie à bord avant et après, parce que la portée pratique de l'artillerie au Moyen-Âge, c'est la portée de l'arbalète, hein, c'est une centaine de mètres au mieux. Hein. Les premières pièces d'artillerie embarquées arrivent au XVe siècle, mais elles sont véritablement de très peu de profit. Si vous voulez, un navire s'agite, ça bouge, et pour aligner une cible, c'est très difficile. Hein. Il faut que nos contemporains se réalisent que même une flotte de 15 navires équipés de quelques pièces de canon ne peuvent même pas rivaliser avec une pièce d'artillerie qui est montée à terre, qui elle ne bouge pas et vise précisément. Hein. Donc on ne s'approche pas des pièces d'artillerie à terre. En mer, c'est fait pour impressionner, si vous voulez. Les pirates, en fait, tout l'enjeu de leur violence, c'est précisément de ne pas avoir à la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'ils mettent en place une sorte de mise en scène terrifiante dans le but que leurs victimes abandonnent et se rendent très très vite. Et surtout qu'il n'y ait pas de combat. Parce que s'il y a combat, il y a pertes humaines, ce n'est bon pour personne. Donc ils pratiquent des stratégies de choc sonore qu'on observe dès le Moyen-Âge. Hein. Ils se rapprochent très vite des équipages et dès qu'ils sont à portée de voix, ils hurlent à mort, vous allez tous mourir si vous ne baissez pas les voiles. Mmh. Voilà. Donc le but, c'est de faire qu'ils se rendent d'eux-mêmes.
C'est pour faire peur. Et quand vous parlez d'arbalète, c'était un moyen d'attaquer avant les canons?
Oui, c'est arbalète, arc et surtout arbalète et jet de pierre. Tout est possible. Hein. On peut imaginer toutes sortes de dispositifs, sauf les engins de siège ou de catapulte qui pourraient absolument rien viser. Mais voilà, les arbalétriers sont les forces premières que l'on charge à bord des navires au moins jusqu'au XVe siècle. Hein. Et en particulier ceux qui avaient la meilleure réputation de tireurs, qui étaient les arbalétriers génois.
La littérature et le cinéma ont très largement contribué à ancrer dans nos esprits des stéréotypes de pirates, Pierre Prétou. J'aimerais qu'on évoque maintenant la vie à bord d'un bateau pirate et ses hommes d'abord. Qui sont les pirates? Est-ce que ce sont véritablement des brigands, des repris de justice? Est-ce qu'on a une idée de leurs identités?
Alors, il y a plusieurs profils de carrière. Il y a des gens très célèbres et qui font qu'ils attirent vers eux toutes sortes de marins qui sont prêts à partir à l'aventure. Là, ce sont des destins de grande portée. Hein. La rumeur et la renommée sur les flots, ça marche très bien. Et il y a des grands capitaines qui sont réputés, et ça vaut à terre aussi d'ailleurs, hein, pour les mercenaires, de grands butins. Donc ça marche, mais au cœur des réalités que nous, on observe comme historiens, on rencontre des gens extrêmement modestes, extrêmement pauvres, et qui n'ont pas eu le choix à un moment donné que de tenter de faire quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a affronté des pirates il y a encore peu de temps, hein, au large de la Somalie. Les profils que nos officiers ont rencontrés sur place sont des profils qu'un historien médiéviste rencontre au XIVe et XVe siècle, et qu'un historien moderniste rencontre aussi au XVIIe siècle. C'est-à-dire des gens qui ont tout perdu et qui tentent de survivre. C'était le cas des Somaliens qui avaient perdu leur zone de pêche.
Pour exercer la piraterie, il faut un bateau. À qui appartiennent les bateaux en question ?
Alors là, on trouve de tout. On trouve de tout comme système, hein, de la débrouille jusqu'aux grands équipages. Alors, les corsaires, normalement, ont accès à de meilleurs équipages et de meilleurs navires. Mais les pirates peuvent s'embarquer dans des petites choses. Hein. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans la littérature dès le XVe siècle. Les pirates s'embarquent dans de petites fustes, nous dit-on, c'est-à-dire de petites galiotes, et ils essayent de trouver une proie possible. Et c'est la raison pour laquelle ils pratiquent aussi les stratégies d'embuscade. Hein. Et c'est ce que notre marine nationale a affronté au large de la Somalie. C'est parfois des équipages absolument improbables, des navires très maigres, mais d'une grande dangerosité finalement, parce qu'ils ont trouvé les failles du système pour essayer de faire butin, quoi.
Ces bateaux, en étant petits, sont très maniables et rapides ?
Ben, c'est qu'on ne les voit pas arriver, surtout. Et quand on les voit, c'est trop tard. Hein. Et on n'imagine pas qu'on va être pris d'assaut par de si petites embarcations, mais qui contiennent des gens extrêmement déterminés. Hein. Avec des petites embarcations, depuis la Somalie, ils ont pu aller jusqu'aux Seychelles.
Hein. Est-ce qu'il y a toujours un capitaine sur un bateau de pirates ?
Alors ça, c'est une question presque littéraire. C'est-à-dire que dans l'imaginaire littéraire et des romans de mer, il y a toujours un capitaine qu'on imagine haut en couleur. Dans les faits, il y a des commandements, très certainement. Alors ça dépend des périodes où on se trouve. Au Moyen-Âge, par exemple, il n'y a pas de capitaine. C'est un mot qui n'est pas employé. On a des mariniers, pour parler des marins. Et ensuite, on a des maîtres de nef, hein, et des maîtres d'équipage. Donc il y a quelqu'un qui possède le bateau, et puis il y a quelqu'un qui commande l'équipage, voyez. Et le mot capitaine, en fait, en guerre sur mer, on le voit surtout émerger, en réalité, à partir du XVIe siècle, en même temps qu'un terme qui, lui, venait du Moyen-Âge, qui est le mot amiral.
Et quel est le rôle de ce chef ?
Alors ça, c'est la marine de guerre, hein, qui en a fixé les codes et qui en fait le seul maître à bord, hein, après Dieu, dans un modèle occidental et politique.
Mais ça s'applique à la piraterie ?
Très mal. Où là, on retrouve plutôt des fraternités, des groupes. Alors c'est vrai qu'il y a un motif stéréotypé où on parle d'élection de capitaine au XVIIe siècle. Dans les faits, on ne trouve pas ce genre de choses. Hein. Ceux qui commandent et qui ont une grande réputation commandent par leur réputation plus que par leur titre.
Et pour les autres ?
Ils font comme ils peuvent, comme on dit. Ils font comme ils peuvent. Et en fait, c'est rare de trouver un même équipage embarqué pour plus de 3 mois. Hein. Les hommes bougent tout le temps, changent en permanence. Donc c'est celui qui possède le bateau. Le modèle, si vous voulez, le plus récurrent ou le plus facile à comprendre, c'est celui des organisations de pêche. C'est-à-dire qu'il y a un maître du navire qui répartit ensuite la pêche par quart et par part. Donc c'est plutôt un système de partage qu'un système démocratique ou électif ou de commandement.
Quand on parle de code, c'est plus tardif. Le code des pirates ou ce qu'on appelle le chasse-partie, ça n'apparaît pas avant quelle période ?
Ça apparaît surtout dans la littérature 19e siècle. C'est-à-dire que, oui, l'idée d'un code des pirates, voire d'un honneur des pirates, puisqu'on a été jusqu'à écrire ce genre de choses.
Hein. Voilà, c'est une légende.
Oui, oui, là, très clairement, c'est le 19e siècle qui s'est emparé de cette affaire, au moment où le récit maritime, hein, vous le savez, dans la grande littérature, surtout anglophone du 19e siècle, a commencé à livrer des grands monuments de littérature qui édifiaient leurs contemporains. Et c'est surtout la littérature américaine et anglaise. On pense à Moby Dick, on pense à des grandes œuvres comme ça, qui permettent à ses lecteurs de se réemparer des raisons pour lesquelles l'Amérique existe, du pastoralisme nautique, de grandes questions de société. Et c'est là que ces motifs sont sortis. Ils ne sont pas sortis des enquêtes des historiens dans les archives.
Est-ce que ça veut dire que tous les pirates sont des hommes sans foi ni loi ?
Non. Les pirates, ou en tout cas ceux qu'on appelle comme ça, sont des gens, comme je le disais à plusieurs reprises, souvent très modestes, hein, qui font comme ils peuvent, mais qui suscitent une émotion incroyable autour d'eux, en raison du fait qu'on estime que leur crime est sublime, et qui ont pu effectivement déchaîner quelques névroses culturelles ici ou là, et surtout une très forte réception de nos contemporains. C'est à tel point que les récits de piraterie sont devenus dans la grande littérature des récits d'éducation au bien et au mal de la jeunesse. Il n'est pas un enfant aujourd'hui à qui on offre un album de jeunesse où on parle de pirates, sans pour autant que ces pirates soient le personnage principal. C'est toujours un personnage secondaire, mais qui est toujours sur la ligne entre le bien et le mal. Et c'est là la fonction fondamentale de ces récits, aujourd'hui en tout cas dans notre société, c'est d'éduquer notre jeunesse au bien et au mal.
Donc le pirate étant toujours du côté du mal ?
Il est entre les deux, entre deux eaux. Il sert à cette éducation. Oui, il peut être une figure terrifiante ou une figure libertaire, toujours réversible. Et il sert aussi, ça c'est paradoxal et moins connu, Ces récits pirates servent, vous n'êtes pas sans savoir que la licence Walt Disney a propulsé plusieurs films intitulés Pirates des Caraïbes, hein, qui sont en fait une reprise de des grands romans du 19e siècle et des représentations iconographiques livrées par le dessinateur Howard Pyle à la fin du 19e siècle. Tout ça, c'est un précipité culturel, hein, et qui est rempli de morts vivants. Hein. Ça n'échappera pas à ceux qui aiment ce cinéma-là. Des morts vivants, il y en a partout, parce que les pirates sont aussi des passeurs de vie et de mort dans l'au-delà, entre le bien et le mal, entre les abysses et notre monde. Ils servent à ça, à nous faire transiter et nous faire chalouper entre le bien et le mal.
Ils évoluent dans un univers qui reste très mystérieux et vis-à-vis duquel l'homme ne se sent pas forcément très familier, à savoir l'océan.
C'est tout à fait. Et là, c'est très occidental pour le coup. Hein. Parfois, je dis à mes étudiants que le criminel le plus connu de l'histoire de l'humanité, c'est le fameux Edward Teach, barbe noire. Hein. La preuve, c'est qu'il est dans le coffre à jouets de tous nos enfants, sous la forme d'une petite figurine ou d'une autre. Hein. Donc tout le monde l'a. Alors c'est vrai qu'il a été très diffusé par le cinéma, par la bande dessinée, par le roman. Hein. Ce barbe noire, en fait, c'est un individu très modeste hein, pour son époque, mais c'est lui qui livre la première représentation. Et en fait, de réception de ça, on a beaucoup fantasmé les pirates, c'est sûr, parce qu'ils ont trouvé une fonction culturelle que les historiens, par contre, qui travaillent sur ces affaires et auprès des justices maritimes, ne rencontrent jamais. Là, on rencontre des existences beaucoup plus modestes que cette grande littérature à très grande portée.
Cette culture du bien et du mal, peut-être même parler de culture religieuse, elle est totalement étrangère à ces hommes, ou bien malgré tout, on est quand même dans des sociétés encore très empreintes de christianisme et de religion, de religiosité.
Alors ça, c'est une bonne question que celle de la croyance religieuse de gens qui se livrent à la piraterie. Moi, je vous dirais comme historien que tout délinquant qu'on rencontre dans l'histoire a toujours cœur à se justifier de ses actions. Mais c'est sûr qu'il y a un socle culturel et spirituel très dense autour de la question maritime. On le sait bien, dans le récit vétérotestamentaire, les allusions maritimes et les images maritimes sont en très grand nombre, bien sûr. C'est le motif du déluge, en fait, qui est le plus prégnant jusqu'à la fin du Moyen-Âge, parce que dans une réception médiévale des choses, Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et donc le déluge, c'est le moment où il constate le mal et il referme les eaux dans une submersion finale. Et ceci, ajouté aux récits monothéistes de la Méditerranée dans l'Antiquité, qui font de la navigation une sorte de passage de la vie vers la mort, alors c'est le cas de la barque de Charon ou des barques votives des cultes égyptiens, mais vous le savez, il y a une densité nautique dans la spiritualité chrétienne qui est très très prégnante hein, et qui permet de relier le bien et le mal. Et c'est vrai que jusqu'au XVe siècle au moins, l'Occident n'imagine pas que l'océan a un fond. Les abysses sont une porte de l'enfer, d'où émergera le Léviathan. Donc le fait de s'embarquer en mer, déjà n'est pas naturel du point de vue de ce socle religieux-là. Parce que pourquoi irait-on au-delà des limites de la vie et de la mort, du bien et du mal, si ce n'est pour éprouver sa propre spiritualité? Et en fait, aller sur les flots, en soi, c'est une épreuve spirituelle que les grands récits de dévotion des 14e, 15e siècle, 16e siècle multiplient à l'envi. Je pense au pèlerinage de Guillaume de Digulville, où on dit qu'il s'embarque sur la nef de l'église, et il transite ainsi vers le paradis terrestre, qui, avant l'époque moderne, est toujours matériel hein, pour ces gens-là.
Et donc, en plus, on s'embarque sur les flots pour pratiquer le brigandage, le vol, le pillage et le meurtre, on défie deux fois plus la morale.
Celui qui s'y livre pourra toujours arguer de sa vengeance naturelle, mais du point de vue de ceux qui sont restés à terre, c'est une manifestation de plus que l'océan n'accueille que des manifestations de Satan, qui, depuis la bouche des abysses, multiplie ses démons et tente les pèlerins qui, accomplissant le pèlerinage nautique, et là c'est le motif du pèlerinage vers Jérusalem ou vers le paradis terrestre qui l'emporte dans les récits du moine de Saint Brandan, le pirate est dans ce socle religieux-là vécu comme celui qui empêche le pèlerin d'atteindre son but. «
Pierre Prétoux, vous nous avez expliqué précédemment que la vie de pirate n'est pas forcément une vie très enviable. L'espérance de vie est peut-être assez limitée. Est-ce qu'on sait de quelle façon les pirates terminent leur vie? Est-ce que beaucoup meurent dans l'exercice de leur fonction, si j'ose dire? Et à quel âge?
Alors, vous ne serez pas surprise si je vous dis qu'ils sont tous très jeunes et que leur espérance de vie est assez limitée. Mais oui, malheureusement, c'est bien ce qui se confirme. Alors, du temps de la grande expérience atlantique, hein, 16e, 17e, 18e siècle et un peu au-delà, le simple fait, de toute façon, de faire une navigation transatlantique présente un taux de mortalité absolument sidérant encore. Hein. On a pu le calculer entre 5 et 10% de membres d'équipage qui périssent sur une navigation réputée sans trop de problèmes. Et quand la dysenterie ou des maladies graves s'embarquent sur les navires, malgré tout, la mortalité
c'est
peut exploser complètement.
Mmh. Ah oui, oui. Si en plus à ça, on ajoute la piraterie.
Et si vous imaginez maintenant les combats en mer, avec le gîte et les mouvements, le moindre objet à bord peut très vite devenir une arme mortelle, hein, au premier coup de vent. Si une chose n'est pas arrimée, les accidents sont extrêmement nombreux. Et alors là, quand on parle de l'artillerie à poudre, le moindre impact d'un boulet de canon sur une coque en bois produit des impacts multiples, des échardes de bois qui lacèrent les corps et qui font que, effectivement, le corps des marins, de manière générale, là je ne parle pas spécifiquement des pirates, mais c'est pour bien l'imaginer et bien mettre le cadre, est particulièrement tourmenté par ces conditions techniques. Ça sera un vrai débat pour les grandes nations françaises, anglaises et américaines dans la première moitié du 19e siècle. On commencera à s'interroger sur le bien fondé d'exposer les corps de la jeunesse à de tels risques. Hein. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, on en parle très très peu. Et c'est vrai que ça forme les premiers imaginaires de pirates édentés, borgnes ou estropiés, qui sont très particuliers. Hein. On imagine que leur corps lui-même est un prolongement de la coque des navires.
Quand vous parlez de pirates jeunes, vous voulez parler de quel âge ?
Pour des mousses, ça peut commencer très jeune enfant presque. Hein. Mais bon, je parle entre 16 et 25 ans. Quelqu'un qui a son corps amoindri par un accident est moins utile hein, en mer. Hein.
Vous avez souligné déjà à plusieurs reprises bien le côté violent, évidemment, de ce métier. C'est particulièrement violent, plus que le brigandage qu'on trouve sur la terre ferme.
Ah oui, 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 oui. Les conditions techniques le rendre beaucoup plus dangereux, hein. Ça c'est absolument certain.
Mais la violence qui est utilisée par les pirates?
Alors on a du mal à la quantifier en réalité. Si je pouvais vous dire tant de navires ont été attaqués et tant de pertes, je vous le dirais. Mais comme il y a le plus souvent, quand ces agressions ont lieu, on n'en a pas forcément les archives. Et quand on les a, c'est parce qu'il y a des procès. Quand il y a des procès, c'est que on commence à avoir des informations, certes, mais on n'arrive pas à franchir le chiffre noir qui nous parlerait de la réalité. Si vous voulez. Donc dans la réalité, on la connaît qualitativement. Quantitativement, c'est beaucoup plus difficile à savoir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces affaires de piraterie connaissent une publicité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'un inconnu, même pour les époques qui manipulent ces données-là, d'où l'exemplarité extraordinaire, dans l'espoir de terroriser aussi à leur tour ceux qui voudraient se lancer dans de telles carrières.
Comment est-ce qu'on lutte contre la piraterie en Moyen-Âge et puis surtout à l'époque moderne?
Alors, pour le Moyen-Âge, on l'imagine plutôt comme un combat juridique, c'est-à-dire que tout l'effort du Moyen-Âge, c'était précisément l'objet de ma recherche, c'était de savoir pourquoi, historiquement, on avait commencé à créer une doctrine pénale autour de ça pour tenter de réguler et d'assujettir les marins, en réalité. Et tout l'enjeu de cette période-là, alors qu'elle n'envisage pas sa souveraineté sur les mers, ça c'est un impensé politique complet, elle a imaginé une forme d'obéissance des gens, dès lors, qui quittaient les royaumes pour aller en mer. Et ça, c'est lié aussi à une réception chrétienne. Et le fait d'avoir imaginé l'obéissance des gens de mer avant d'avoir imaginé une souveraineté sur la mer est à l'origine de la doctrine pirate, c'est-à-dire une utilisation du droit pénal pour tenter de les contrôler.
Alors, ils sont capturés en mer ?
Tout dépend. Alors, à partir du XVe siècle, quand l'infraction en piraterie est sublimée et bien établie en droit, les pirates que vous attrapez en mer, vous pouvez mettre fin à leur jour immédiatement.
Et vous y êtes encouragé ou il vaut mieux les ramener vivants pour les juger?
Tout dépend de leur importance politique. S'ils sont d'une grande importance politique, ça peut valoir le coup de les ramener sous une forme ou une autre, si vous voyez ce que je veux dire. s'ils n'ont pas de grande valeur, non. Alors on a des cas célèbres, je peux vous en donner un. Un des premiers pirates qui émerge de l'histoire, il émerge justement du conflit franco-anglais au début du XIIIe siècle, il s'appelle Eustache Dillemoine, parce qu'il avait quitté son monastère pour monter en mer. Hein. Et c'est quelqu'un qui a servi un temps le roi d'Angleterre, un temps le roi de France. Il a changé d'allégeance à plusieurs reprises, c'est ça qu'on va lui reprocher. C'est-à-dire qu'on va dire de lui, finalement, c'est un traître. C'est quelqu'un qui n'obéit à personne et qui un jour sert l'un et un jour sert l'autre. Si bien que lorsque le gouverneur de Douvres réussit enfin à mettre la main dessus grâce à un mouvement assez audacieux, hein, en mer au large de Douvres, elle l'a fait décapiter immédiatement. Sa tête a été transférée à terre et ensuite on l'a promenée sur une pique dans tous les ports d'Angleterre qui avaient eu à subir ces violences. Hein. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est celui de Barbe Noire, très connu au début du XVIIIe siècle, où le capitaine Ménard, qui l'avait emporté dans une bataille navale, a fait couper sa tête et l'a fait suspendre au mât de Beaupré. Non pas que grand monde l'a vu, hein, cette tête qui s'agitait au mât de Beaupré, mais on en a beaucoup parlé.
Est-ce que c'est le sort qui est quand même réservé à la plupart des pirates, ou bien d'autres sont emprisonnés ou mis à mort d'une autre manière ?
Alors ça dépend de l'intérêt que l'on a à ramener un coupable à terre ou pas. Ceux qui sont très connus, on a intérêt à les ramener sous une forme ou une autre, soit vivant, soit mort, mais effectivement pour ne serait-ce que la publicité remarquable de votre exploit, vous qui avez tiracé un pirate très connu. Mais la plupart du temps, ce sont des gens très modestes. Et comme ils sont réputés sans aveu être des ennemis de la chose publique et des ennemis de Dieu lui-même, les exécuter séance tenante est un procédé tout à fait rencontré.
Est-ce que les États et les royaumes unissent leurs forces, par exemple, pour mettre fin aux activités de tel ou tel pirate très réputé, si on peut dire ? Et le premier qui arrive à mettre la main dessus s'en charge, quelle que soit la nationalité du bonhomme en question ?
Alors, les rois ne s'allient que très très peu entre eux pour lutter contre les pirates. Ils le font quand ils font des traités internationaux qui organisent la paix des navires. C'est-à-dire qu'ils mettent en place un protocole commun pour lutter contre la violence en mer. Mais dans les faits, quand ces faits de piraterie existent, c'est parce qu'il y a des gens qui précisément se faufilent entre les souverainetés et profitent du conflit qui les oppose. Donc un jour, ils servent une couronne. Et un autre jour, ils en servent une autre.
Ils sont très opportunistes.
Et tant que ça dure, ben ça dure. Voilà. Donc, précisément, l'existence d'un pirate qui émerge et qui serait persévérant dans le temps, elle est liée à l'incapacité des souverainetés à trouver une alliance factuelle.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait du butin dans ces cas-là ?
Alors, le principe le plus souvent rencontré dans la culture des gens de mer, c'est l'application du système des parts. Chacun a droit à une part, à une demi-part, à un tiers de part. Tout ça est régulé en fonction de l'importance de la personne, en fonction de son âge, de son expérience. On peut dire, par exemple, quelqu'un qui monte sur les mâtures, un gabier qui voltige dans les mâtures, c'est quelqu'un qui a droit à plus de part. Un commandant a droit à plus de part. Un mousse a droit à une demi-part. Vous voyez, c'est un système
de
qui
répartition.
Est régulé ainsi. Voilà, c'est un système de répartition au partage.
Et selon un code assez précis, apparemment.
Qui est souvent celui des usages de la mer qu'on rencontre aussi dans l'histoire de la pêche.
Et alors quand un bateau de pirates tombe entre les mains des autorités, est-ce qu'on rend commerçant ce qui a été volé ou ça revient dans l'escarcelle du roi ou du royaume ?
L'indemnisation des victimes, c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu. Le plus souvent, les pauvres victimes ne retrouveront pas grand-chose. C'est pour ça qu'elles préfèrent à la limite obtenir des lettres de marque qui leur permettent de se faire vengeance sur la collectivité de l'ennemi qui les a frappés quand ils peuvent l'identifier. Mais dans la réalité, et c'est tout le problème du mot piraterie, de l'accusation qu'elle déclenche, normalement, tout préjudice oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Donc une victime, en droit normal, elle a le droit d'avoir son indemnité. Mais dans le cas d'une piraterie qui est une agression contre la chose publique, la victime supérieure, c'est le roi lui-même. Et dans ces circonstances, le roi a le droit de faire confiscation de la totalité des biens des coupables qu'il a saisis. Et là, avec préemption, donc les victimes n'ont rien du tout.
Je passe sans transition à une autre question pour cette émission, Pierre Prétout. Est-ce qu'il a des femmes pirates ?
Alors ça, c'est une large et très bonne question. On a des femmes pirates qui sont identifiées dès le Moyen-Âge, qui ont des réputations extraordinaires et qui ont été très stéréotypées par les récits maritimes au XIXe siècle et au XXe siècle. Un cas classique, c'est Grâce au Malais pour l'Irlande, Jeanne de Belleville pour la France au XIVe siècle. Le problème de ces femmes pirates, c'est qu'elles sont plus fantasmées qu'elles ne sont réelles dans les faits. Non pas que la mer est un problème avec le genre féminin, c'est pas du tout ça. C'est lié à ces récits-là, c'est-à-dire que non seulement il y a une éducation au bien et au mal dans le récit pirate, mais il y a aussi une éducation au genre, et ça c'est un vaste problème. Et effectivement, une femme pirate, c'est une femme qui renverse les codes habituels et qui permet, et c'est pour ça qu'elles sont très prisées dans la littérature pour jeunesse, qui permet d'indiquer à l'enfance les bonnes conduites de genre en réalité. Donc c'est parce que c'est un récit d'éducation de la jeunesse qu'on rencontre des femmes pirates plus que dans nos archives historiques.
On l'a dit pour commencer, Pierre Prétout, c'est le 19e siècle qui fixe l'imagerie et le stéréotype du pirate tel qu'on l'a tous en tête, hein, le capitaine Crochet, pour faire vite. Pour quelles raisons au 19e siècle ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui explique la fascination exercée par cet univers ?
Alors le capitaine Crochet, c'est un excellent exemple parce que s'il y a bien quelqu'un qui éduque au bien et au mal et au temps qui passe, c'est précisément ce fameux capitaine Hook et son fameux personnage rival qui est Peter Pan. Mais effectivement, le 19e siècle a fait très vite émerger une littérature pour jeunesse dans le monde anglophone qui est lié au grand récit maritime. Ça commence dès le premier quart du 19e siècle et très vite, ça est interprété et dirigé comme récit de jeunesse. Alors, de la part des États-Unis, c'est lié au fait que cette jeune nation, hein, vous le savez, au début du 19e siècle, elle a à peine quelques décennies, tente de se restaurer un récit des origines. Alors, c'est vrai qu'en France, on pense au récit des origines américain comme étant le récit du western, mais en réalité, dans une première strate historique, ils se sont recherchés avant tout un récit maritime, une genèse des États-Unis à travers les flots qui aurait triomphé des brigands et des bandits avant d'émerger sur ces 13 colonies. C'est dans ce contexte-là de récit national américain que les récits pirates ont trouvé une très belle place dans le roman historique de jeunesse.
Alors quel est le plus représentatif de ces récits ?
Ah, c'est le récit de Barbe Noire qui menaçait les côtes de Pennsylvanie et c'est là qu'il prend une importance monstrueuse ce personnage parce que il est l'adversaire de la nation elle-même naissante jusqu'à ce que le gouverneur de Pennsylvanie parvienne à lever une flotte, à envoyer le capitaine Maynard. Un affrontement en a résulté en mer qui a donné lieu à de très très grandes peintures de romans historiques, une iconographie très très dense et c'est là que le motif du bon citoyen américain qui fait naître sa nation en triomphant des pirates s'installe dans le récit.
Donc là, on est à la croisée des chemins entre légendes et réalités. Barbe Noire a véritablement existé, mais ce qu'on en a fait sert complètement le récit des origines des États-Unis.
Oui, c'est exactement ça. Barbe Noire, il a une existence qui est documentée, qui est modeste. Mais s'il est vraiment rentré dans l'histoire, ce n'est pas par nos modestes travaux d'historien, c'est par les grandes œuvres de la littérature et sa première porte d'entrée d'ailleurs. C'est le fameux récit d'un auteur qu'on a mis beaucoup de temps à identifier, qui s'appelait Captain Johnson, qui avait écrit une histoire des plus fameuses vies pirates, les plus notoires de son époque. On est au début du XVIIIe siècle, et on sait désormais que l'auteur qui se cachait derrière ce récit était Daniel Defoe lui-même. Et forcément, il a livré une première iconographie, des premières gravures, et plusieurs récits d'hommes et de femmes pirates, qui ont frappé l'imaginaire et qui a été un succès de librairie internationale, Angleterre, Pays-Bas, France, États-Unis, dès sa sortie dans les années 1720-1730, et qui a ensuite été décliné, redécliné, répété à l'envi jusqu'au 19e siècle.
Quelle est l'importance du livre, cette fois, de Stevenson ? On quitte le continent américain pour revenir dans la vieille Europe. Stevenson, qui est écossais.
Tout à fait, mais là aussi, c'est une seconde génération là, de récits, de jeunesse, là encore, puisque le personnage principal est un enfant. Donc, on le rejoint quand on est un enfant ou un adolescent sans peine. Et les personnages secondaires, que sont les pirates, se multiplient. Et ce personnage stéréotypé du pirate dans Stevenson, qui lui-même a une béquille, qui semble avoir le corps diminué de tous les côtés, mais jamais on a couru aussi vite que lorsqu'on a une béquille qui est en fait très vigoureux, vous aurez remarqué que les corps des pirates, ils sont toujours mutilés, ils sont toujours amoindris, mais lorsqu'on est un capitaine crochet, on accroche encore mieux que les autres, et lorsqu'on a une béquille comme dans l'île au trésor, on court encore plus vite que les autres. C'est assez étonnant. Ces personnages se sont hybridés avec leurs propres manques et leurs propres vulnérabilités, ils sont invincibles en réalité. Hein. Et ils sont toujours aux limites du bien et du mal. Ils ont l'air sympathiques à un moment donné, antipathiques à un autre, empêcheurs de projets à tourner en rond, avoir une vie et une existence simple. Ils sont des moteurs en fait pour un roman de jeunesse extraordinaire, pour accompagner un jeune lecteur à travers le bien et le mal.
Et alors les caricatures là, et puis les caractéristiques qu'on retrouve à chaque fois pour décrire un pirate, ça sort d'où ? L'œil borgne, la jambe de bois, le perroquet, le rhum ?
Alors il y a un contexte historique hein, qui est certain, c'est celui des corps qui sont mutilés et endommagés par la navigation à voile et la marine à voile. Ça c'est un fait historique. Hein. Les corps meurtris, pris en charge ensuite pour ceux qui avaient survécu à terre dans des conditions assez terribles, étaient de notoriété publique. Mais on en a fait un stéréotype en l'amenant beaucoup, beaucoup plus loin. Et en fait, à bien y réfléchir, la première fois dans l'histoire de la littérature où on va hybrider comme ça un corps humain avec les conditions océaniques, c'est dans les contes de Canterbury et de Chaucer. Et là, on est à la fin du Moyen-Âge. Et dans son prologue, il nous décrit les marins comme des gens qui ont la barbe secouée par la tempête. Et il décrit leur corps comme s'étant hybridé avec ce monde hostile qu'est la mer dans lequel ils vivent. Hein, et où ils ne devraient pas vivre. Ils sont plus véritablement humains, mais ils ne sont pas véritablement monstrueux non plus. Ils sont aux limites.
Ils sont le prolongement, quelquefois, de leur propre bateau et oui, de cet univers.
Alors là où le cas est absolument flagrant, c'est dans Moby Dick, où le capitaine arpente le pont de son navire comme un métronome qui tape. Et on entend le capitaine arriver qui tape sur sa coque. Et sa béquille est le prolongement de la coque de son propre navire. Et lorsque le feu de Saint-Elme frappe le Pequod, le navire éponyme, il est le seul à être toujours tout droit. Tout le monde peut vomir sur place, jamais pas le lui. Capitaine. Lui, il personnifie. Et dans le cinéma, c'est Gregory Peck qui avait illustré ce rôle. Il avait parfaitement compris. On pouvait toujours pencher la caméra, mais jamais Gregory Peck n'est de travers.
Tant pis pour la reine et le roi, tant mieux si tu deviens corsaire. Jésus était hors la loi, viens donc fréquenter les étoiles, dormir dans le ventre des voiles. Oh, Iséo, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, Iséo, la frégate, il y a du bon temps pour les pirates, tant que la mer est par-dessous, c'est le corsaire qui tient le bon bout. Oh, il faut avion noir. Oh, il faut avion.
Et la consommation de rhum s'est avérée?
Alors, la consommation des alcools, oui, mais c'est toute une société, si vous voulez, les travaux de force, que sont les travaux des marins à bord, les hommes qui montent en haut des mâtures, les hommes qui manipulent le cabestan. C'est un univers sonore d'ailleurs qu'on a un peu oublié. C'est assez curieux, mais les efforts qu'on fait dans la marine à voile, on les fait avec le chant. C'est le chant qui vient coordonner les corps et qui fait que les efforts se font en même temps hein, et viennent s'organiser. Et il y a tout un univers sonore de la vie à bord qui a été un peu oublié. Et qui revient parfois par les chants de marins qui sont extrêmement rythmés. Il y a des chants de cabestan, il y a des chants de Montéomaha, il y a plein de chants selon les activités de la journée. Et tout ce travail est coordonné ainsi. On a du mal à l'imaginer encore aujourd'hui. Et ça fait un univers tout à fait singulier quand même.
Et donc pour se donner du courage, on boit.
Pour se donner du courage, j'avais perdu le fil, dans ce contexte-là, les travaux de force, comme dans le monde rural, nécessitent un peu de coup de force. Mais en fait, ça agit comme sédatif, l'alcool. C'est-à-dire qu'ils sentent au moins la douleur de leur corps grâce à un état de semi-ébriété quasi permanent. Le problème du rhum à bord, mais toutes sortes d'alcools pouvaient plus ou moins faire l'affaire. Les vins se dégradent très très vite, les alcools aussi. Le rhum tient mieux les navigations transatlantiques. Il aura aussi cet avantage qui a été découvert par la Royal Navy dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de pouvoir rajouter des jus de fruits dedans et les marins de l'accepter. Parce qu'un des problèmes de la navigation, c'est la carence en vitamine C. Surtout si la navigation est longue, qui peut rendre très malade, c'est très dangereux. Et un des moyens qu'on trouve d'administrer des produits frais aux équipages, c'est de les additionner avec de l'alcool.
Le pavillon à tête de mort ?
Ça a existé. Ça a effectivement existé. Ça fait partie des tactiques utilisées par les pirates pour se donner de la réputation et pour faire peur, bien entendu. Il y en a plusieurs. Certains se sont donné un pavillon, mais la plupart du temps, ils ne s'en donnent pas ou ils dévoilent leur pavillon au dernier moment. Le problème du pavillon, il n'est pas vécu par les pirates comme un roi. Un roi montre ses couleurs. Un pirate n'en a pas. Mais par contre, il peut montrer pavillon si ça devient intéressant pour la mise en scène.
C'est-à-dire pour impressionner toujours.
Voilà.
Pierre Prétou, terminons nos entretiens en évoquant notre période aujourd'hui. C'est quand même étonnant que la piraterie n'ait pas disparu. Enfin, est-ce que ça vous étonne, d'ailleurs ?
Non, moi, ça ne m'étonne pas. Que des gens soient désespérés et en viennent au dernier des agissements que l'on décrit, ça arrive. C'est le cas des Somaliens qui avaient perdu leurs ressources. On a retiré à ces pauvres gens leur pêche maritime parce que la Chine avait envoyé ses navires industriels et avait nettoyé leurs zones de pêche. Ces gens-là ont tenté de survivre sur place en attaquant les navires étrangers qui étaient venus les appauvrir en réalité. Ils l'ont fait. Ça apparaît aussi quand il y a des problèmes politiques. C'est le cas du détroit de Malacca, lorsque la souveraineté n'est pas claire sur les espaces. Ça peut arriver aussi dans de grands estuaires. L'estuaire de l'Amazone pouvait éventuellement vous faire arraisonner par des pirates.
Mais on a quand même le sentiment que les motivations ne sont plus tout à fait les mêmes.
La vraie question, en fait, c'est de savoir si on a encore besoin, à notre époque, d'un droit de la piraterie ou d'un droit criminel qui ferait des violences en mer une accusation sublime. Pour vous donner un exemple, quand les marins grévistes de la Société Nationale, je crois que c'est la SNCM qui fait le transit entre la Corse et le continent, ont arraisonné ou ont bloqué leur propre navire en mer, si on avait suivi le code maritime, alors qu'ils étaient dans une démarche de grève pour des questions de salaire, si on avait suivi le code maritime, ils étaient redevables du crime de piraterie. Et pour cette action, ils auraient pu connaître 30 ans de prison. Est-ce que la disproportion de la charge criminelle est encore utile à notre droit international ? C'est à voir. Quand je photocopie un billet de banque, je commets un crime de faux monnayage. Je suis redevable de 30 ans de prison. Ça paraît tout d'un coup bizarre. Donc c'est plutôt une réflexion. Quelle doctrine pénale on doit déployer sur les mers aujourd'hui qui paraît utile au droit international ?
Pierre Prétou, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « L'invention de la piraterie en France au Moyen-Âge ». C'est un livre qui est paru aux presses universitaires de France. Merci encore à vous.
Merci.
Et merci à nos confrères de RCF en Charente-Maritime. Et merci à Pascal Gauthier qui était à la technique.